A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, agriculture, industrie, toute l'économie mondiale est impactée et doit s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Combien cela va-t-il coûter? Où en sommes-nous? Pendant 6 ans, des centaines d'experts ont minutieusement étudié tous les secteurs dans chaque pays et c'est aujourd'hui qu'ils doivent publier leur synthèse à Berlin. C'est le 3e volet du rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Si vous suivez C'est pas du vent, nous avons déjà parlé des 2 autres volets sur les preuves physiques du réchauffement publiées en septembre et sur les impacts et les risques publiés le mois dernier. Ce 5e rapport du GIEC, donc les 3 volets au total, était très attendu pour que les décideurs prennent conscience de l'urgence d'agir, parce que nous allons le voir, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, les conséquences commencent sérieusement à se faire sentir, notamment près du littoral où vit 60% de la population mondiale. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, voyons si nous avons encore le temps et surtout les solutions pour éviter le pire.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Charles Rocade.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous avez participé à la rédaction de ce 3e volet du rapport du GIEC qui est essentiel, comme je le disais, pour donner envie d'agir. Parce qu'il y a une urgence là.
Oui, enfin la question c'est que cela fait maintenant 20 ans que l'on suit un peu cette affaire, qu'on accumule des matériaux sur la façon dont les sociétés peuvent se mettre en marche pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le plus on attend, bien sûr, le plus on risque d'avoir des réchauffements très très élevés.
Alors on sait que la planète se réchauffe à un rythme inédit, hein, plus 0,8 degrés au niveau global, ce qui donne des températures qui dépassent par exemple les 50 degrés dans des pays comme le Tchad. Une représentante des femmes peut nous en parler à ce même micro il y a quelques semaines. Et les scientifiques nous prédisent aujourd'hui plus 3 ou 4 degrés d'ici la fin du siècle, avec des conséquences dramatiques comme la baisse des rendements agricoles, des pays submergés comme le Bangladesh, la destruction de certaines espèces, etc. Alors on connaît hein, ces scénarios, vous le disiez, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on y travaille, ça fait longtemps, mais les scénarios on les connaît. Les 2 premiers volets du rapport là, les ont d'ailleurs réactualisés. On sait que ça va être difficile de vivre sur cette planète à 9 milliards en 2050. Et comment on fait donc pour déclencher une véritable transition?
C'est ça qui est le problème central. D'abord, ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis 20-30 ans, il y a eu beaucoup de travaux qui permettent de montrer essentiellement que on peut dessiner des mondes à 2070 qui sont à plus basse émission de carbone. C'est pas facile, mais ça on peut le faire parce que on a beaucoup d'éléments sur la façon dont on peut faire muter les systèmes électriques, bâtiments où il y a énormément de gains à faire. La chose la plus difficile étant sûrement les transports. Parce que les transports, ça a à voir avec la mobilité, que c'est là où il y a le moins de substitution possible à grande échelle et bon marché au carburant. Et ça dépend bien sûr de la façon dont on va maîtriser notre dynamique urbaine. Donc on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses plus difficiles comme les transports parce qu'il faut jouer sur l'urbanisme, donc il faut jouer sur des forces plus compliquées simplement que par exemple le prix de l'essence. Ce sont des dynamiques beaucoup plus lourdes. La question est qu'il faut le commencer tout de suite, sinon vu les inerties de tous ces systèmes, on agira trop tard.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que enfin on se décide à agir, puisque comme vous le disiez, vous avez fait partie des premiers rapports du GIEC, j'ai envie de dire, c'était dès 92. Voilà, ça commence à faire un certain temps et on a l'impression, on a un sentiment d'inertie.
Oui, alors j'ai conscience d'avoir pas répondu directement à votre question, je l'ai un peu fait exprès, parce que d'abord il faut dire que c'est possible sur le moyen terme. C'est pas
c'est quelque encore chose. Possible.
Non, mais il y a un peu l'idée quand même qu'il faut pas y aller parce que des économies d'énergie trop fortes, baisser les émissions de carbone, ça va nous, pour caricaturer, ça va nous ramener à la bougie, ça va nous forcer à la décroissance, etc. Il y a beaucoup de scénarios et ça, le GIEC l'a fait depuis 3 ou 4 rapports maintenant, qui montrent que ça c'est pas vrai. Qu'on peut très bien définir des mondes à une croissance tout à fait raisonnable, pas contradictoire avec le développement des pays émergents et des pays du tiers-monde, et que c'est jouable. La question, en revanche, est comment on déclenche. Ça, c'est plus difficile. Alors là, on s'approche de problèmes de politique à plus court terme. Et ce qui est vrai, c'est que la façon dont, très souvent, les politiques climatiques ont été abordées, c'est quelque chose qui est un peu séparé des enjeux du court terme.
Hein, bah oui, parce que forcément, on est sur des objectifs à 2100, des choses comme ça.
Oui, donc... mais c'est bien ça le problème. Si on veut aujourd'hui changer nos investissements en matière énergétique, si on veut investir dans le véhicule électrique, ça commence par coûter. Donc, si ça commence par coûter, on va dire ça fera plus de coûts, plus de chômage, moins d'emplois, ça bloquera le développement des pays en développement. C'est ça qui est dans la tête des gens.
Oui, mais c'est comme investir dans l'isolation de son bâtiment. Ça coûte dans un premier temps, mais après on est gagnant parce que à long terme on récupère de l'argent.
Oui, mais lorsque vous êtes un pays qui est en accélération rapide de développement et que vous sortez de la pauvreté, c'est un discours que vous prenez pas de façon sympathique. Parce que ça commence par vous dire, écoutez, vous serez plus riche plus tard, mais d'abord, vous commencez à vous enrichir un petit peu moins. Donc, la vraie question, c'est quels sont les éléments qui font que, sachant que ça coûte plus cher, il faut mettre de l'argent là-dedans, comment ça peut se faire sans que ça soit au sacrifice des générations présentes? Et vous savez, c'est très simple, hein, il y a deux grands vecteurs qui peuvent permettre de faire ça. Ce sont les systèmes fiscaux. Si vous dépassez plus 10 en énergie, mais en même temps vous faites moins 10 en charges sociales ou en impôts divers, le bilan est nul pour les entreprises.
C'est-à-dire qu'il faut taxer?
C'est très simple. C'est pas un choix. Si vous ne taxez pas, vous croyez que ça va vous coûter 10, ça va se propager sur tout l'appareil de production, ça vous coûtera 20. Si vous dites, j'admets que mon énergie va être plus chère de 10, et si vous voulez pas avoir une pénalisation pour les populations présentes, il faut bien supprimer quelque chose. Et par exemple, on prend l'exemple en France, hein, c'est pas international ça, on parle du pacte de compétitivité, on cherche comment baisser les charges sociales sur les entreprises. Par exemple, vous prenez une taxe sur le carbone et vous baissez les charges sociales sur les entreprises. Dans d'autres pays, c'est bien sûr d'autres choses qu'il faut faire. Mais en Chine, par exemple, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui. Les Chinois travaillent beaucoup sur la fiscalité. Parce qu'ils se disent, nos classes moyennes vont vouloir, comme celles des pays occidentaux, avoir plus d'hôpitaux, plus d'éducation, etc. Comment on finance ça? Ou bien on fait comme les pays occidentaux, on le finance sur la production, ou on le finance en taxant les émissions polluantes. Et donc c'est pas ça, et c'est, on ne devrait pas, en fait, raisonner sur ces sujets sans poser la question de la fiscalité, mais de façon positive. C'est-à-dire, c'est bien sûr comment on réconcilie des objectifs de long terme et des objectifs de court terme.
Et le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est la finance. C'est quoi le monde aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, c'est un monde où, sans en avoir conscience, y compris parmi nos auditeurs, je pense, toute personne de couche moyenne supérieure met de l'argent quelque part, et cet argent, il va dans des investissements, dans des fonds de pension. C'est vraiment très simple. Hein. Vous avez aussi beaucoup de rentes qui sont dans le pétrole, dans d'autres endroits. Vous avez de la rente immobilière. Donc vous avez de l'argent aujourd'hui qu'on met quelque part, mais pas forcément dans la production. Aujourd'hui, l'ensemble de l'argent qui va dans les mécanismes de spéculation, en particulier, c'est ce qui a causé la crise récente, dans l'immobilier, si vous imaginez simplement que cet argent puisse se réorienter tout de suite, hein, pour les investissements dans des transports ferroviaires, dans les énergies nouvelles et renouvelables, dans des bâtiments beaucoup plus économes en énergie, vous faites deux choses. C'est bon pour le long terme, mais c'est bon pour le court terme, parce que ça porte le fer sur un des points de déclenchement de la crise que nous avons vécu.
Mais la question, c'est qui peut impulser ça?
En théorie, ce sont les gouvernements, puisque quand je vous parle de finances, je parle de réformes financières, monétaires.
Hein, donc ça se déciderait où? À l'organisation
Non, mais il y a plusieurs choses. Il y a à distinguer deux choses. Ce que peuvent faire les gouvernements, chacun de leur côté, c'est une chose. Et quand on parle de finances, de réformes fiscales, c'est leur responsabilité. Et il y a des choses qui sont à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si on parle de monnaie et de finances, c'est pas quelque chose purement national. Si on parle, ce qui est sur la table des négociations au climat, ce qu'on appelle en anglais le Green Climate Fund, c'est le Fonds mondial pour le climat, il faut bien ça le gérer internationalement. Donc il y a une part de responsabilité des gouvernements, je dirais, à l'intérieur de leurs frontières, et une responsabilité des gouvernements en tant que partie prenante d'une communauté internationale, et ça c'est tout l'enjeu des négociations internationales sur le climat.
Et ça va pas être simple.
RFI. Been alive.
Don't you know nothing comes free?
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie de Jean-Charles Ourcade, directeur du CIRED, le Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, et nous parlons de nos capacités à diminuer l'ampleur des changements climatiques à l'occasion de la publication du troisième volet du rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Les entreprises, tous secteurs confondus, sont des acteurs incontournables pour modifier la trajectoire de nos émissions, et le cabinet de consultants PwC vient de publier sa 17e enquête sur les préoccupations des chefs d'entreprise de la planète. Alors nous sommes en ligne avec Stanislas Salone de Kertangui, qui est consultant stratégie en développement durable chez PwC. Bonjour.
Bonjour.
Ce qui ressort de votre étude, c'est que près de la moitié des chefs d'entreprise s'inquiètent de la pénurie des ressources naturelles et des conséquences des changements climatiques sur leurs activités.
En effet, alors bien entendu c'est encore plus sensible dans les industries qui sont intensives en énergie, dans les grands producteurs industriels ou les entreprises du secteur des transports. Mais donc oui, plus de la moitié des dirigeants voient cette incertitude sur la disponibilité aisée et à bas coût des ressources énergétiques qui, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, était un élément considéré comme acquis. Donc cette inquiétude vis-à-vis du changement climatique est assez sensible. Et puis, dans d'autres domaines économiques ou industriels, il commence à poindre une sensibilité aux impacts physiques que pourrait avoir le changement climatique sur les outils de production, sur les supply chains, sur les circuits de distribution.
Les supply chains, donc, sont leur chaîne d'approvisionnement.
Leur chaîne de valeur, excusez-moi.
Voilà. Alors, le secteur le moins inquiet, et c'est bien dommage, notamment avec ce que nous disait Jean-Charles Ourcade à l'instant, c'est le secteur financier.
Tout à fait. Et nous voyons ces chiffres, un peu plus de 30% dans le secteur financier des dirigeants ont cette considération. L'explication pour ce, alors que bien entendu dans les secteurs les plus énergie intensifs, c'est des taux beaucoup plus élevés. Alors l'explication que nous avançons, c'est que dans le secteur financier, qui est une activité tertiaire, avec des implantations physiques finalement assez réduites au regard du chiffre d'affaires et du nombre d'employés de ces entreprises, ne voit pas d'impact direct. Il ne voit pas ses bureaux, il ne voit pas ses activités menacées directement par le changement climatique. Toutefois, nous aimerions ajouter que on remarque que les assureurs sont un tout petit peu plus concernés. Et en fait, si on regarde même les réassureurs, alors qu'ils sont pas identifiés comme tels, eux, les réassureurs, ont vraiment maintenant une perception du risque et du coût du changement climatique et des modifications et des catastrophes qui pourraient être apportées par les changements physiques du climat. Juste effectivement, cette absence de prise de conscience du secteur financier, on peut un petit peu la tempérer en disant que assureurs et réassureurs ont maintenant cette prise de conscience. Et puis il commence à exister des référentiels dans l'investissement pour analyser les risques de changement climatique dans les grands projets. Mais insuffisamment par rapport à ce qui serait nécessaire.
Alors si on revient sur cette inquiétude des chefs d'entreprise que vous avez notée, est-ce que derrière l'inquiétude, il y a quand même une envie d'agir ?
Il y a déjà une envie de connaître plus précisément son impact et son empreinte environnementale. C'est le préambule à l'action. C'est connaître l'impact réel des risques pour l'entreprise et connaître la contribution, si vous voulez, de l'entreprise aux impacts environnementaux.
Alors j'ai envie de vous dire que c'est pas mal, mais enfin, il est temps. Il faudrait peut-être aller plus loin là maintenant.
Oui, il faut aller plus loin. Alors, les entreprises les plus actives ont des objectifs ambitieux pour maintenir leur activité tout en réduisant leur consommation énergétique et leurs émissions de CO2. Et puis il y a aussi des entreprises qui imaginent, on pourrait dire que c'est baisser les bras ou que c'est préempter les changements climatiques qui vont se produire, donc des entreprises qui imaginent comment transformer leur activité pour résister au risque du changement climatique.
Voilà, donc ils sont déjà finalement dans l'adaptation, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Stanislas Salone de Kertangui. Votre étude est en ligne sur le site de PwC. Jean-Charles Ourcade, comment est-ce que vous réagissez à ces inquiétudes et un peu anticipation quand même de certains secteurs de notre économie mondiale?
Ce qu'il vient de dire est très important et me permet de revenir aussi sur le rôle des États. Je suis d'accord à 100% avec ce qui vient d'être dit. Avec quand même la nuance suivante, c'est que les grandes industries lourdes, ciment, pétrochimie, etc., suivent le dossier depuis le début. Et de fait, elles sont inquiètes.
Oui, ça on peut le comprendre.
Et de fait, elles sont désireuses d'un cadre stable pour agir. Ça, c'est vrai. Je prends un exemple, c'est pas eux, mais Renault, par exemple, a beaucoup investi sur le véhicule électrique avec 5-6 000 ingénieurs dans les années 89-90, dans le contexte de Copenhague. La façon dont il y a eu des effets d'annonce qui n'ont pas été tenus est une catastrophe. Donc un industriel a besoin de certitude. Deuxièmement, quand même, là c'est un deuxième problème, c'est que on sait bien, parce qu'il n'y a pas que les gros industriels, il y a tout le reste. Et là, il y a un problème historique qui est la chose suivante, c'est que dès lors qu'on va parler d'outils financiers ou d'outils de fiscalité, vous voyez bien qu'il y a des rapports de force idéologiques qui se créent. D'accord. Et le problème, c'est que les industries lourdes sont plutôt perdantes. Hein, c'est quand même normal, ça. Il est normal donc qu'elles demandent des traitements spéciaux. Et en général, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt elles qui sont les porte-parole des industries, des autres. Et par exemple, si vous mettez une réforme fiscale avec on taxe le carbone et on détaxe le travail, les industries lourdes vont pas être gagnantes. Par contre, les PME vont être gagnantes. Donc la majorité de l'industrie française va être gagnante, mais pas les industries lourdes. Or, ce sont elles qui s'expriment.
Et oui, mais ce sont elles qui polluent le plus aussi.
Oui, mais alors, la question qu'il y a là-dedans, c'est que la responsabilité des gouvernements, ça, c'est d'en prendre acte. Il n'y a pas du tout question de les punir ou de dire que ce sont... Parce qu'après tout, c'est nous qui aussi consommons leurs produits. La question, c'est qu'à plusieurs reprises, j'en ai été témoin, des compromis auraient été possibles. Ou finalement, je vais même vous dire, sans donner leur nom, que deux anciens directeurs de gros groupes automobiles sont favorables à une taxe carbone. Mais la façon dont ça a été géré par les gouvernements, l'instabilité que ça a créé, l'amateurisme avec lequel ça a été fait, qu'à chaque fois ça a raté. Ils ne peuvent pas, eux, de façon, et c'est tout à fait normal qu'ils soient réticents à ce genre de solution, mais ils en comprennent l'intérêt à condition que les termes du débat public et du débat social soient corrects. C'est la même façon, c'est le même problème que l'on va avoir avec les financiers. En pire, parce que de fait, comme l'a dit votre intervenant, ils sont moins en première ligne. Donc, ils sont moins au courant.
Donc, voilà pourquoi on a besoin d'un accord fort sur le climat en 2015 à Paris, parce que ça donnerait justement un cadre qui contraindrait les gouvernements à prendre des décisions fortes, ce qui ferait un cadre d'action pour les industries.
Alors, comme le mot contrainte est peut-être pas, on va un petit peu changer. Voilà. C'est-à-dire que les gouvernements se sentiraient, ça donnerait une grande crédibilité, si vous voulez, hein. Donc, en gros, si on suppose qu'il y a un accord qui ne soit pas de façade, c'est-à-dire où il y a quelque chose sur le fonds vert, il y a quelque chose sur les mécanismes de baisse de risque des investissements, il y a quelque chose sur le fait qu'il y aura quand même un jour de fait un prix du carbone, parce qu'on va soutenir les réformes fiscales, parce qu'on va s'entendre sur quelque chose qui va aller dans cette direction-là, d'abord dans les pays occidentaux, parce que pour les pays en développement, c'est un peu plus compliqué. Mais si ça, on le sait, et ça n'a pas besoin d'être grandiose tout de suite, ça a simplement besoin de donner un cadre de prédictibilité. On est sur des décisions d'investissement qui vont sur 15 à 20 ans. Donc, pas la peine de partir avec des grandes trompettes tout de suite. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on voit à 20 ans. Et si ça, on le met en place, à ce moment-là, vous verrez qu'une grande partie du secteur industriel va basculer du côté de l'action sur le changement climatique, parce que ça sera de son intérêt. Et alors, je reviens, c'est la responsabilité des gouvernants, parce que ils ne peuvent pas le faire, ils l'ont un peu trop fait, en faisant un peu quand même de l'affaire climatique, quelque chose qui est bien pour les bobos, pour caricaturer, hein, d'accord, c'est quelque chose qui est séparé. Vous avez d'un côté ceux qui s'occupent du climat, et de l'autre côté ceux qui s'occupent de la finance.
Voilà, mais il est temps quand même que tout le monde se mette autour de la table. On a bien compris, Jean-Charles Ourcade, merci beaucoup d'être passé dans C'est pas du vent, et on voit bien que le chantier est immense. Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans 3 minutes, juste après le flash d'info, nous verrons quelles sont les conséquences des changements climatiques sur le littoral, là où habite 60% de la